Et alors, c'est connu dans certaines communautés pour les grands, ceux qui ont été connus comme des grands tzadikim, le deuil est raccourci au maximum, mais vous avez des familles encore où ce serait un blasphème de pleurer le deuil de quelqu'un plus qu'à moi. Parce que ça veut dire quoi? Tout ça, tu attends qu'il sorte de la désintoxication. Vous comprenez, je veux dire. Mais pourquoi je veux... Ça veut dire que c'est pas poli. Pourquoi j'ai cité ça? Et pour passer du Olam HaBa HaTachton jusqu'au Olam HaBa HaElyon Lechenala, il faudra se désintoxiquer des jouissances les plus spirituelles que nous ne pouvons pas même maintenant nous en faire idée pour monter plus haut. C'est clair? Je voulais expliquer cela parce qu'il y a cette tendance que j'appelle un peu sadducéenne qui consisterait à dire comment les événements contemporains, vous leur donnez un sens messianique, c'est tout que ça. On va s'arrêter là. C'est parce que tu crois que toi, tu vas t'arrêter là. C'est toi qui ne crois pas la suite. Vous comprenez le problème? Ça y est, c'est clair.
Ça serait le nirvana.
Si vous voulez, pour utiliser votre terme, ils iront de nirvana en nirvana. Yelechou mechaïl el chaïl. Bien. Alors, ça y est, c'est fini pour cette question. Bon, alors nous revenons à notre problème. Voilà ce que je voulais dire surtout. C'est que la référence du Midrash sera ce qui s'est passé au Sinaï. Nous sommes beaucoup plus à l'aise pour lire l'évidence de l'enseignement du Gaon maintenant, que je vais prendre sur le texte même. Kitovim dodecha miyain. Pourquoi je t'avais demandé ça? Ah oui, Asar Nishonot. Et vous avez le texte sous les yeux. Ceux qui n'ont pas, essayez de suivre l'un sur l'autre. Mais non, c'est des autres textes. C'était des textes d'hier. Alors, Kitovim dodecha miyain. Ça veut dire que ton amour, littéralement l'amour de toi, est plus grand pour moi que l'amour du vin, vers Inyan. Et l'explication de cela est que, si je t'ai dit que les deux premiers commandements, les 10 commandements, nous les avons entendus directement de la bouche de Dieu lui-même. Ici, il y a une expression, si vous voulez, on peut l'étudier. Pourquoi on a l'habitude dans les textes traditionnels de dire sous cette forme de la bouche de Dieu, Mipi à Gvura? Littéralement, qu'est-ce que ça veut dire Gvura? Là,
la vaillance.
La force, la vaillance. Mais en fait, il s'agit d'une sphira parmi les sphirotes, d'une mida parmi les midos, d'une des modalités qui est la modalité de Gvura, la modalité du Tzimtzum. C'est-à-dire que Dieu réduit l'infini de l'absolu à un niveau qui puisse être à la portée de l'entendement humain. Mais pire voix. Ça veut dire que la Torah qui nous est transmise, c'est une Torah diminuée absolument à l'échelle de notre identité, de la sagesse infinie, du Ensof, de l'infini, de la Chokhma totale. Vous comprenez très très grosso modo. Mais pire voix, Shamarou. C'est-à-dire qu'il y a accessibilité entre l'absolu et notre relatif, l'infini et notre fini, et c'est ça la grandeur du Créateur. J'analyse un peu cette notion de Gvura, par exemple, lorsque dans la Tfila nous disons Ata Gibor, nous te reconnaissons comme étant le vaillant. Bon, c'est une étude classique dans la Gemara de Brachot. Quel sens ça peut avoir de dire à Dieu tu es fort? Est-ce que ça pouvait impliquer que ça aurait pu être l'inverse? C'est-à-dire, dire à Dieu tu es fort impliquerait une attitude de blasphématoire à la limite. En quoi c'est une louange? Ça ne peut être une louange que si l'inverse pouvait être vrai. Ce n'est que si Dieu pouvait être faible, si j'ose dire, que ce serait une louange de lui dire tu es fort. Donc ça n'a aucun sens de dire à Dieu à ta gibor. Ça n'a aucun sens dans le langage que nous employons habituellement. Voilà comment l'explique le commentaire. Et Zéhou gibor, à Koresh et Zitzou. De qui on peut dire vraiment qu'il est Dibor? Celui qui est plus fort que lui-même. C'est ça la force de la Gvura. Ça veut dire pouvoir être plus fort que soi pour laisser une place pour l'autre. Vous voyez, c'est clair? Et le verset qui est cité par la Mishnah est très important. Moshe Berucho, celui qui domine son propre esprit, est plus fort que celui qui conquiert une ville. Parce que être plus fort que quelqu'un d'autre, ça ne veut pas dire qu'on est fort, ça veut dire que l'autre est plus faible. Je pense que c'est clair. Être plus fort que quelqu'un de plus faible, Ça, c'est pas une chorma. Mais plus fort de quelqu'un que plus fort, on ne peut pas. Alors, que ça veut dire être fort? Ça veut dire être plus fort que soi-même. Voilà, c'est ça la gevura. La vraie gevura, c'est pouvoir mettre l'absolu de l'infini à la portée de la créature. Nipi agvura shamar. Bon, je referme cette parenthèse. Pas tellement l'objet de ce que veut dire le Gaon ici. Il y a eu événement dans la réalité. Vous comprenez? Et il ne s'agit pas ici d'une rencontre que l'on vit que au niveau de l'espérance, qu'au niveau du rêve. Là, il faudrait un peu le langage de la psychologie moderne pour trouver la catégorie précise. Je sais pas, c'est par fantasme, mais enfin, fantasme, c'est un peu, si vous voulez, péjoratif. Mais ce n'est pas une expérience mystique, mais dans l'imaginaire, c'est une réalité objective dans l'histoire. Il s'est passé que. Et ça, c'est pour les deux premiers commandements. Nous verrons d'ailleurs qu'il est important de voir que d'après leur contenu, par définition, ces deux commandements sont privilégiés. Mais avançons dans le texte du Gaon. Shnei divrot ha'rishonot mipi ha'gevura shamarnum v'ha'shear mipi Moshe. Et les autres commandements, nous les avons entendus à travers Moïse. Alors ici, il n'y a pas une ingratitude vis-à-vis de Moïse, mais tout au contraire ceci. Le souhait, va nous dire le Gaon de Vilna, c'est que nous voudrions entendre aussi les autres commandements comme Dieu directement les dit, parce que jusqu'à présent, nous ne les avons que par le porte-parole. Est-ce que c'est clair? Vous vous rappelez ce qui s'est passé dans Rashi, à propos du récit de ce qui s'est passé au pied du Sinaï. Lorsque le peuple est arrivé au pied du Sinaï, et que Moïse a transmis le programme de cette charte du Sinaï en un seul verset qui résume, qui récapitule toute la vocation d'Israël selon la Torah. Et vous, maintenant que vous avez eu l'expérience de cette histoire de la Géoula, de la délivrance d'Égypte, vous savez qu'on peut être libéré, alors vous êtes disponible pour le Dieu de la libération, si j'ose dire, Anochi Hashem Elokecha, pour la Torah. C'est important de voir cela, je ne sais pas si nous en avons déjà parlé, que nous sommes, nous, très habitués à cette évidence. C'est le même homme, Moïse, qui est celui qui sort les Hébreux de l'exil d'Égypte et qui leur donne la Torah. Ce n'était pas du tout évident que ça doit être, le même homme qui soit celui de ces deux directions, de ces deux expériences. A posteriori, pour nous, nous sommes familiers à cela. Moïse a libéré les Hébreux de l'Égypte, Moïse leur donne la loi. Mais ça pouvait être deux prophètes différents. L'un qui est la force temporelle d'être le chef politique de la Géoula et de la fin de la Galoute, et l'autre qui est la force spirituelle d'être l'homme du sacerdoce de la législation de vérité. Vous comprenez l'importance du problème. Il était donc nécessaire que ce soit le même homme qui témoigne de ces deux expériences. Parce qu'il y a un lien direct entre le fait d'avoir été délivré de la galoute et le fait de pouvoir recevoir la Torah. C'est-à-dire cette Torah est donnée qu'à ceux qui ont eu l'expérience de la galoute et en sont libérés. Un peu parallèle au thème que nous avons vu hier soir. Cette Torah est donnée à Israël, c'est-à-dire Jacob devenu Israël. Seul Jacob peut devenir Israël, mais c'est quand Jacob devient Israël que la Torah lui est donnée. Vous voyez quel est le point. D'Aber el Bene Israël, il n'y a pas écrit d'Aber el Bene Yaakov. Mais qui c'est cet Israël? C'est Jacob devenu Israël. Eh bien, le Rashi cite le Midrash en disant ceci. Lorsque les Hébreux, qui, de façon, disons grosso modo, avaient comme tradition une tradition d'espérance de la fin de la Galoute, de la fin de l'exil d'Égypte, ont été libérés par Moïse, bon, il y a eu du tirage. Est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est pas le temps? Est-ce qu'il faut? Est-ce qu'il faut pas? Et vous savez finalement ce qui est arrivé. Une partie seulement du peuple des Hébreux a suivi Moïse, et la majeure partie est restée quand même en Égypte. Bien. Mais en fin de compte, surtout après le passage de la mer Rouge, ce que dit le verset est très clair, « Vayahaminu b'Hashem u'Moshe avdo ». Après le passage de la mer Rouge, ils ont bien vu que le temps était venu de la délivrance, puisque cette chose inouïe, qu'on pouvait être délivré de l'emprise de l'Égypte dans les circonstances les plus prises au piège complètement, et être délivré quand même, je n'arrive pas à m'exprimer, vous comprenez l'idée, dans les circonstances les plus miraculeuses, c'est donc le signe que vraiment le temps était arrivé. Vous vous rappelez tout ce problème? On avait perdu le compte du temps, enfin, c'est moi qui dis ça comme ça. On savait qu'on attendait un événement de délivrance, mais on ne savait plus quand. il y avait une tradition que c'était 400 ans, le temps d'exil. Et puis finalement, Moïse arrive au bout de 210 ans seulement, vous vous rappelez de cela. Bon, on ne savait plus comment compter le début des 400 ans, et puis c'est pas si simple que ça. Mais de notre temps, nous vivons quelque chose d'assez analogue. Est-ce que le temps est venu? Est-ce que le temps n'est pas venu? Et il y a eu cette contestation-là contre Moïse. Mais en fin de compte, l'événement du passage de la mer Rouge, pour ceux qui étaient sortis d'Égypte, c'est la confirmation. Le verset dit clairement « Vayamin ou Vachem ou Moshe Avdo ». Au pied du Sinaï, et voilà que Moïse va bousculer cette évidence si difficile à récupérer, mais à laquelle on était déjà devenu suffisamment familier, qui avait une histoire anormale du peuple hébreu dans la dispersion d'Égypte, et puis que finalement cette anomalie, cette anormalité va prendre fin, qu'on va redevenir normal, un peuple sur sa terre, sionisme classique, si vous voulez, mais arrivé au pied du Sinaï, ce peuple s'entend dire un nouveau programme. Et en fait, tout ça, eh bien, c'est pour ce que vous deveniez, Mamlechet, Kohanim, Goy Kadosh. Je vous rappelle du verset. Alors là, comment le peuple réagit en disant Kol Asher Diber Hashem Naase, tout ce que Dieu dira, nous ferons. Et ça veut dire, c'est tellement nouveau que nous ne pouvons pas accepter ce que toi, Moïse, tu nous dis. S'il y a ce changement de programme auquel on ne s'attend pas, sauf la tribu de Lévi qui savait ça depuis toujours, qu'il y a un sens de sacerdoce universel à l'histoire spécifique nationale d'Israël, la tribu de Lévi était prête, hein? Mais les autres tribus, c'est un choc nouveau. Qu'on a cher libéré Hachem, là, c'est tout ce que Dieu dira, tout ce que Dieu dira, nous ferons. Nous sommes habitués à lire le verset comme une acceptation, le grand mérite d'Israël d'avoir accepté. Tout ce que Dieu dira, nous ferons. Mais c'est dit à Moïse dans des circonstances qui nous font comprendre qu'il y a là un problème. C'est moi qui ajoute, mais pour que ce soit bien clair. Ce que Dieu dira, nous ferons. Pas ce que tu nous dis, toi, la Moïse, parce que c'est trop. C'est pas qu'on va refuser, mais on veut que ce soit Dieu qui parle. Vous y êtes ? C'est ça qui a provoqué la révélation du Sinaï. Pour habiliter ce que Moïse dit, parce que ce que Moïse dit est reçu comme quelque chose de trop nouveau, de trop inattendu, à ce moment-là. Et il y a deux fois ce verset répété, le verset suivant, que Moïse a rapporté les paroles du peuple à Dieu, et que Moïse a expliqué les paroles du peuple à Dieu. C'est dans le chapitre 19 de Shemot, si je me souviens bien, oui. Dans la paracha de Yitro. Et Rachid, c'est donc le Midrash que je voulais indiquer à ce sujet. Voilà comment Moïse a plaidé. Parce que quel est le dialogue? Tu m'as dit de leur dire, eh bien maintenant que vous avez eu cette expérience de la Géoula, de la délivrance, vous allez devenir le peuple des prêtres des autres peuples. Mission universelle. À partir de Jérusalem, mais mission sacerdotale. Et le peuple réagit en disant, ce que Dieu dira, nous ferons. Moïse explique à Dieu, ben voilà, ils ont dit qu'ils veulent que ce soit toi qui leur parle. C'est clair, comment on cite le Midrash, comment Rachid cite le Midrash. Et voilà quel est le problème. Le verset dit, puisqu'il en est ainsi, dit Dieu à Moïse, « Inani ba be'ah be'anan, je viendrai dans la nuée, ba'amur ishma et ha'am medaberi imach, de telle sorte que le peuple m'entende te parler, ve'gam be'cha ya'aminu le'olam, et qu'en toi aussi, ils aient foi à jamais. » Or, ils avaient déjà eu foi. Vayaminu Bachem, mon cher Aldo. Mais ils avaient eu foi en Moïse comme libérateur de l'Égypte. Ils n'avaient pas encore foi en Moïse comme celui qui donne la Torah. C'est clair jusque-là ? Mm-hmm. Et alors là, il y a ce deuxième verset. Et Moïse expliqua à Dieu les paroles du peuple. Rachid cite le Midrash, que je vais enfin me citer, dit ceci. Ils veulent voir le fiancé. Ils veulent voir le roi. C'est-à-dire, ils ne veulent pas d'intermédiaire. Et Moïse explique cela en bien pour Israël. Vous voyez, c'est clair, il plaide. En fait, il y a, dans l'attitude d'Israël au pied du Sinaï, cette ambivalence. Okay, d'accord, on accepte ce que Dieu dit, et d'ailleurs parce qu'on ne peut pas refuser. Quand Dieu se révèle, qui peut refuser? Mais il y a l'autre aspect, pas ce que tu nous dis là, toi, Moïse. Et c'est pourquoi beaucoup de textes montrent que la véritable alliance du Sinaï, c'est pas par rapport à la Torah écrite, quand on entend Dieu parler. Le mérite, c'est par rapport à la Torah orale. Le mérite, c'est la Torah de Moïse. Est-ce que c'est clair? Mais revenons à notre problème. C'est que là aussi, nous voyons le fait que Israël, et ça c'est le grand privilège d'Israël, Israël réclame qu'il n'y ait pas d'intermédiaire. Alors, on l'a expliqué de la manière suivante. Les deux premier commandement, on les a entendus directement. C'est un mariage du fiancé à la fiancée. Tandis que les huit autres, et tout le reste des 613 commandements, on les a entendus par un intermédiaire, c'est ce qu'on appelle un mariage par procuration. Alors que les Hébreux ont dit, nous ne voulons pas être mariés par procuration. Toute l'histoire d'après le Sinaï, c'est celle-là. C'est l'histoire de l'attitude dans les huit commandements où nous sommes mariés par procuration. Voilà ce que dit le Gavron. Si Tovim Dodecha Miyaïn, il vaut mieux un mariage avec le mari qu'un mariage par procuration. Ça y est, c'est clair? Alors, on peut continuer. Vachar mi pimoshe. Le lachim katou vechta diveros lachon me raver barado. Anochi Hashem Elokecha. C'est pourquoi les deux commandements, Dieu parle à Israël directement, Barado, en disant, je suis Hachem ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Mais les huit autres, c'est Moïse qui formule, en se référant à Dieu à la troisième personne, par exemple, l'exemple que donne le Gaon, et tu observeras le Shabbat que Hachem ton Dieu t'a ordonné. Vous voyez, la forme verbale a changé et c'est l'indice qu'il y a un changement de situation. Quelle est donc la nostalgie qui est exprimée dans Kitovim Dodecha Miyaïn? C'est le fait que nous voudrions revenir à ce que nous avons connu une fois au Sinaï au niveau des deux commandements. Ça y est? Alors, on va Midrash. Et le Midrash enseigne. Au moment où Dieu a prononcé le premier commandement, c'est moi qui suis Hashem Elokecha, Nikbar Torah Veliba. La Torah a été fixée en leur cœur. Et lorsqu'il a dit, et tu n'auras pas d'autre Dieu que moi, la tentation de l'idolâtrie les a quittés. Mais qui va chez Amrou, mais au moment où ils ont dit, si nous continuons à recevoir la révélation en direct, nous sommes perdus, parle-toi, Moïse, et que nous écoutions, je reviendrai immédiatement sur ce problème qui est important. Hazrou, le Kemoshai. Et la situation antérieure est revenue. Quel est le thème qu'il y a là? C'est que, par définition, le peuple n'était pas à un niveau tel qu'il pouvait recevoir la révélation en direct. Et c'est pourquoi il y avait la nécessité de la médiation par le prophète. Et par conséquent, il y a eu un moment exceptionnel où le peuple a dû être protégé. D'autres midrashim montrent que des légions d'anges sont descendues pour protéger Israël de telle sorte que leur âme ne quitte pas leur corps au moment où ils entendent la révélation directe. Ce qui se passe, c'est que dans cette génération, seul un homme, Moïse, est capable d'être à ce niveau de vis-à-vis, de face-à-face, avec le Créateur et ne pas disparaître. Il est irani Adam Bahai. Okay? Mais il faut transmettre la parole du Créateur au peuple. Et par définition, ça ne peut se faire que par l'intermédiaire du médiateur qui est Moïse. Or, il y a exigence que ce soit en direct. Mais c'est impossible. C'est donc cette situation d'impossibilité qui va se trouver dénouée comme cela. Entre-temps, le fait que deux commandements ont été entendus. Et puis, entre-temps, cette épreuve a réussi à jouer son rôle. Entre-temps, le peuple sait que lorsque Moïse parle, c'est bien ce que Dieu dit qu'il dit. C'était cela qu'il était nécessaire d'expérimenter. Que, comme a dit le verset, « Barabur, Ishma, Aram, Medaveri, Imach, Vegam, Becha, Yaminu, Leolam » afin que le peuple m'entende te parler et qu'en toi aussi, ils aient foi. Vous comprenez de ce qui se passe là? Le Mahamad Arsinaï, eh bien, c'est un événement où Israël a eu la preuve d'une révélation de transcendance. Et non pas le contraire. Je ne sais pas où j'ai lu, je ne me rappelle plus. Que Mahamad Arsinaï, ça voudrait dire se tenir debout au Sinaï. Comme si jusque-là, ils étaient courbés. Non, il ne s'agit pas de ça. Mahamad Arsinaï, ça veut dire qu'il s'est passé un événement où Israël a eu la preuve d'une transcendance qui se révèle. Et c'est quand Dieu parle à Moïse, le peuple sait que à partir de ce moment-là, lorsque Moïse parle, c'est bien pour dire ce que Dieu lui dit. Tout le contexte est absolument clair. Transcendance, ça veut dire que un niveau d'absolu inaccessible se rend la transcendance en elle-même est inaccessible. Et l'événement du Sinaï, c'est que ce qui était transcendant, c'est-à-dire l'absolu inaccessible, s'est rendu accessible par la révélation. Et c'est à cette expérience donc, que se réfère la nostalgie qui est formulée par notre verset du point de vue de cet enseignement. Mais entre-temps, cette impossibilité a été levée. Que, je veux dire, pendant tout le temps de l'histoire, on ne peut pas être au niveau de l'aboutissement. Or, c'était le niveau de l'aboutissement qu'on réclamait dès le début. Donc, il fallait qu'il y ait un événement exceptionnel qui nous montre que c'était possible. Le Shéhérit s'est révélé dans le Réchut. Mais il suffisait qu'il se révèle dans les deux grandes catégories formelles des commandements, les deux premiers commandements, les autres, la formulation de détails, eh bien, c'est par Moïse qu'elle a été transmise. Voilà donc ce que dit le Gaon ici, l'exigence de l'amour direct, et non pas passant par la connaissance d'autrui, c'est que pour tous les autres commandements aussi, il en soit directement comme cela a été pour les deux premiers commandements. Alors, nous continuerons. Dans le dernier midrash qui est cité par le Gaon, c'est très important, cette preuve qu'il y a bien un créateur, une fois expérimentée, fait que toute la tentation de l'idolâtrie, dans notre texte on appelle ça Zohar Matanahash, c'est parallèle, cette tentation de l'idolâtrie disparaît. Il suffit qu'une fois j'ai vu, j'ai entendu en direct, pour que tout doute disparaisse. Mais au moment où ils ont dit, bon, on ne supporte plus, parle-toi, au moment où de nouveau c'est Moïse qui parle, ce doute a recommencé. C'est ce que dit le gars. Hazmou le kamoshaï, qui shnediberot arishonot, hem klal kolatora. Or, il faut bien comprendre que les deux premiers commandements, c'est le principe de toute la Torah. Veyadoua, chez Shivim Panim la Torah. Et on sait d'autre part, il est connu d'autre part, qu'il y a 70 aspects, 70 visages à la Torah. Vous connaissez cette expression, Shivim Panim la Torah. Bon, comment on l'utilise habituellement, de façon assez, comment dire, populaire, c'est-à-dire que on peut comprendre différents aspects d'une même vérité. Il y a 70 aspects à la Torah. Mais ici, le Gaon l'emploie avec une intention très précise. La Torah, c'est la révélation de la volonté du Créateur unique pour l'universel de son monde. Mais dans son monde, il y a 70 manières d'être homme. Il y a les 70 nations. Il y a donc un aspect de la Torah qui correspond à la volonté de Dieu pour chacune des manières d'être homme. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et dans le récit de la Bible, au sujet de l'histoire de l'humanité, on s'aperçoit qu'à un certain moment, l'unité de l'humanité éclate dans la grande dispersion humaine que nous appelons en hébreu Dorapelaga, comment traduire ça en français, la génération de la dispersion, la grande diaspora. Et puis il y a 70 visages humains différents qui apparaissent, qui sont les identités de base des différentes combinaisons historiques qu'il y a eu par la suite, socio-historiques, socio-politiques, et qui font tous les peuples, toutes les ethnies, toutes les nations contemporaines, jusqu'à aujourd'hui. Il y a une multiplicité des génies humains qui apparaît au moment de cette grande diaspora. Et cela signifie donc que il y a un aspect de la Torah qui correspond. Aspects à la même vérité. Je ne sais pas, dans le théâtre italien contemporain, quelque chose comme ça, chacun sa vérité. C'est ça. Alors, mais ce n'est pas du tout ça que veut dire l'expression étymologiquement. Yesh Livim Panim la Torah, ça veut dire la Torah a un visage particulier par rapport à chacune des nations.
Chaque individu ne peut comprendre que d'une façon.
Non. Attendez, ça c'est déjà autre chose. Je vais d'abord expliquer ceci. Et c'est quelque chose dont nous avons perdu l'évidence. Et je vais vous citer un enseignement que cite Rashi sur le verset 5 du premier chapitre du Deutéronome. Lorsque Moïse a récapitulé la Torah pour la génération des enfants, de la génération de la sortie d'Égypte. Le verset dit ceci. Roel, Roel, Moshe, Be'er, Torah, Azo. Moïse a commencé à expliquer cette Torah. Rachid cite le Midrash qui dit, il a expliqué Be'shivim Lachon, en 70 langues. Venez, Moïse, qui a reçu la Torah dans le langage de vérité absolue propre à Israël, le Lachon HaKodesh. Lui, qui connaît la Torah qu'il a reçue en Lachon HaKodesh, peut exprimer la Torah dans le langage particulier à telle ou telle manière d'être homme. Il me semble qu'au dernier séminaire, nous avons un peu parlé de cela d'une autre manière. Okay? C'est tout le problème de la traduction. Celui qui a reçu la Bible en hébreu de la Bible peut, s'il connaît une autre langue, parler cette Bible dans cette autre langue. Mais celui qui fait partie d'une société d'un langage particulier, qui voudrait traduire la Bible des Hébreux, va projeter la mentalité particulière de son langage dans la Bible des Hébreux. Il ne peut y avoir de traducteur de la Bible que à la manière de Moïse, c'est-à-dire celui qui, premièrement, connaît l'hébreu, sa propre langue, et d'autre part, connaît la langue de telle ou telle nation. Est-ce que j'ai été suffisamment clair? Parce que nous sommes encombrés aujourd'hui de traductions de livres hébreux, mais faits par des traducteurs qui sont dans le sens inverse, c'est-à-dire qui ne peuvent que projeter les catégories de leur langage dans le texte qu'ils traduisent. Ce n'est pas un hébreu qui traduit. Et même quand il s'agit de juifs, parfois, ce n'est pas leur langue de vie intérieure. L'hébreu, vous avez compris ce que je veux dire. Bien. Alors, ceci renforce un peu la première analyse. Yeshivim panim la Torah. Il y a 70 visages à la Torah. Ça veut dire qu'il y a un aspect de la Torah qui concerne telle ou telle nation en particulier. Mais nous avons décroché de cette capacité de Torah propre à Moïse. C'est-à-dire, je ne sais pas moi, essayez d'être un peu concret. Il y a la culture française, il y a la culture allemande, il y a la culture grecque, il y a la culture italienne. Bon, la question est, qu'est-ce que dit la Torah dans quoi que ce soit qu'elle dise lorsqu'elle parlerait aux Français ou aux Allemands ou aux Grecs ou... Vous avez compris le problème. Et ce serait le rôle d'ailleurs de la Torah de Galout de s'exprimer par rapport à la culture de telle ou telle société des 70 nations. Okay.
Oui, à ce propos-là, je voudrais savoir si ça correspond à quelque chose qui est dit autrement, peut-être ailleurs, que la Torah comme texte, en tant que texte, donc, peut avoir 70 visages, c'est-à-dire en tant que toute réalité, ne peut pas être perçue en tant que ce qu'elle est, en tant qu'absolue, mais elle ne peut être perçue que par une de ses faces.
À la fois.
Une seule, c'est ça. Et donc, les différentes façons de percevoir quelque chose, si elles pouvaient se compléter, donneraient une idée de la totalité, mais que humainement, il n'est possible que d'avoir un seul aspect.
À la fois.
À la fois. Et oui, enfin, je veux dire, est-ce que ça correspond avec les peuples, c'est ça?
Oui.
Toute réalité, toute réalité.
Ça correspond avec les génies culturels. C'est-à-dire que, lorsque, par exemple, à ma connaissance, la seule traduction de la Torah dans une langue étrangère qui ait des chances de rester comme vraiment authentique, c'est la traduction de la Bible en anglais dans l'édition que vous avez avec le Pirouge de Rachid traduit en anglais, le Zilberstein. Okay. Oui, à ma connaissance c'est la plus proche du texte hébreu dans le génie de la langue anglaise. Les traductions en français sont très difficiles à faire. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui s'attachent à ces travaux impossibles. Messima bilti efshari, de traduire un texte hébreu en français, Flegg a réussi à nous donner un peu la méthode, mais avec Flegg qui pouvait être Flegg. Si vous voyez ce que je veux dire. Okay. Bon, Chouraki a fait tout ce qu'il a pu, et etc.
C'est pas mal.
Hein? C'est pas mal. Comme tu dis, c'est pas mal. Pardon? Attendez, je voulais terminer juste ce raisonnement. Alors ça voudrait dire, traduire la Torah, mais je crois vraiment ça, pour ceux d'entre vous qui peuvent étudier en anglais, si vous voulez, et c'est pas du tout pour plaider pour une paroisse mandonienne, c'est pas ma paroisse, mais ce sera beaucoup plus efficace pour vous d'étudier Rachid dans une traduction, cette traduction anglaise, c'est bien le Zilberstein, Zimmermann, que par exemple dans l'édition française que vous avez, qui est inutilisable, presque chaque mot est faux, vous voyez. Et en toute bonne foi, les traducteurs sont des gens respectables que je connais d'autre part. Ce n'est pas du tout eux qui sont en question. C'est la difficulté de cette entreprise de traduire un texte traditionnel hébreu en français. C'est très difficile. Peut-être en allemand, c'est...